Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Et le thème de mon enseignement, ça va être les sept dimensions de la communion avec Dieu. J'aimerais avant tout prier un instant, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que c'est une joie pour nous chaque fois de nous retrouver dans cet endroit, le dimanche, pour louer, célébrer ton nom avec nos frères et sœurs. Et nous voyons les miracles que tu opères dans nos vies. Nous voyons, Seigneur, les bénédictions que tu nous accordes. Et par les nombreux témoignages que nous pouvons entendre, Seigneur, nous savons que tu es présent dans ce lieu. Nous te bénissons, Seigneur, ô Dieu. Et ce matin, nous croyons que tu vas encore nous faire du bien. Et tu vas nous parler dans nos cœurs. Tu vas nous aider à aller plus loin avec toi dans notre foi. Tu nous aideras à grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta personne. Ce matin, Seigneur, je te prie de bénir ce message. Et d'aider, Seigneur, de faire en sorte que, Seigneur, ce message puisse aider mes frères et mes sœurs à aller plus loin dans leur vie chrétienne. Que ton nom soit béni, Père, ce matin. Et je souhaite vraiment, Seigneur, de tout mon cœur, être une source de bénédiction pour ton peuple. Libère ton onction sur ta parole et restaure nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais parler de la communion avec Dieu. Vous savez, le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui connaissent des problèmes dans leur vie, non parce que Dieu n'existe pas, non parce que forcément il y a un péché quelconque dans leur vie, non parce qu'il y a peut-être une malédiction qui planerait quelque part, que peut-être que tiens, les auraient jeté un mauvais sort, etc. Mais le plus grand nombre de problèmes que rencontrent les enfants de Dieu dans les églises est dû simplement au fait que ces personnes n'ont pas une réelle communion avec Dieu. Et souvenez-vous que c'est à partir du moment où Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, et qu'à cause du péché, leur communion avec Dieu a été rompue, c'est à partir de ce moment-là que Adam et Ève ont commencé à connaître les problèmes. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes sont rentrés dans le monde. Alors, au travers du péché, la souffrance est arrivée parce que Dieu dit à l'homme, désormais maintenant, pour manger, il faut que tu travailles et tu mangeras la sueur de ton front. La Bible déclare qu'à partir de ce moment, la femme devait accoucher avec des douleurs. La Bible déclare que parce qu'ils ont mangé le fruit interdit, alors ils mourront. Ils ont commencé à connaître ce que c'est la mort. Ils ont commencé à connaître ce que c'est les problèmes, les difficultés. La maladie est rentrée dans le monde à cause justement du fait que l'homme s'est séparé d'avec Dieu. La maladie n'est pas rentrée à cause du péché. En fait, ils ont péché. Mais à cause du fait qu'ils ont péché, ce péché-là a occasionné quelque chose. Ce péché est venu s'intercaler, s'interposer entre la relation que Dieu avait avec l'homme. Alors le péché a coupé la relation que Dieu avait avec l'homme. Et à cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu, selon qu'il est écrit que tous ont péché et sont éloignés de sa présence. Ils sont privés de sa gloire. Alléluia! Et c'est à cause justement de cette déconnexion. C'est à cause du fait que l'homme s'est déconnecté de la source de vie. La source de vie qui est Dieu, que la souffrance, la maladie, les problèmes, les difficultés ont pris le dessus sur sa vie. Parce qu'il n'avait plus assez de force pour pouvoir avoir la victoire sur les problèmes. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent aux réunions à l'église. Ils sont peut-être convertis, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ils continuent à venir aux réunions, mais ils ont des problèmes dans leur vie. Tout simplement pourquoi? Parce que leur relation avec le Seigneur n'est pas en parfaite harmonie avec le Père. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Et c'est le manque de communion avec le Seigneur qui est la source de nombreux problèmes dans le milieu chrétien. Et ce matin, le Seigneur veut nous aider à rétablir notre communion avec le Seigneur. Et si nous avons une communion avec Dieu, à aller plus loin dans notre communion avec le Seigneur. C'est ainsi que nous pourrons connaître la victoire, que nous pourrons connaître la bénédiction, que nous pourrons connaître la vie en abondance. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'elle est en abondance. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, j'aimerais vous partager sept points, sept principes importants qui nous permettront de comprendre les sept dimensions de la communion avec Dieu. Et au sortir de ce message, le but c'est que vous puissiez vraiment être capable, vous-même, vraiment vous-même, à pouvoir vivre une vie de victoire et de pleine abondance, de plein bonheur. J'aimerais aussi dire que les chrétiens, la vie chrétienne, on ne la vit pas le dimanche à l'église. La vie chrétienne, on ne la vit pas le mardi quand on vient aux réunions d'enseignement. La vie chrétienne, on ne la vit pas le vendredi quand on vient aux réunions de prière. Le mardi, le vendredi, le dimanche ou tout autre jour de réunion d'église ne sont que des rencontres pour pouvoir exprimer notre foi et pour pouvoir la partager avec les autres, pour pouvoir nous édifier les uns les autres. La vie chrétienne ne se vit pas à l'église. La vie chrétienne se vit à la maison, au travail, à l'école et partout où nous trouvons, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alléluia! La vie chrétienne se vit tous les jours. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut pas maintenant dire que 24 heures sur 24, je dois être dans ma chambre, les yeux fermés, la tête courbée ou agenouillée en train de prier. Sinon, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus vaquer à nos occupations, on ne pourra plus faire autre chose que de rester dans notre chambre et prier. Non, quand la Bible déclare que prier sans cesse, ça veut dire que notre esprit doit être en permanence, en communion perpétuelle et constante avec Dieu. Alléluia! Que je travaille, que j'aille à l'école, que je prépare, que je sois à la cuisine, que je sois dans ma chambre, partout où je suis, en tout lieu où je serai, que mon esprit soit en permanence connecté à la source de vie. Alléluia! C'est ce que ça veut dire, prier sans cesse. Et c'est ça, être en communion avec le Seigneur. Mon cœur est en contact et en connexion permanente avec le cœur de Dieu. Alléluia! Et si on est comme ça, alors nous allons voir ce que Dieu va faire dans notre vie, tous les jours de notre vie. Nous connaîtrons la victoire, nous connaîtrons la bénédiction et nous ne serons jamais déçus. Alléluia! Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 13 à 16. Le premier principe que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que on ne peut être en communion avec Dieu que par le moyen du Saint-Esprit. Donc déjà, pour parler de communion, ça veut dire qu'il faut que, au départ, on soit converti, qu'on ait reçu Jésus, qu'on soit converti, qu'on soit né de nouveau, et donc qu'on ait reçu Jésus dans notre cœur. À partir de ce moment, quand on reçoit Jésus dans notre cœur, ce n'est pas Jésus en chair et en os qui a marché sur la terre, qui vient dans notre cœur. Mais il a dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia! Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia! Donc, le premier principe, c'est que on ne peut être en communion avec Dieu que par le moyen du Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit prendra ce qui est en Dieu, ce qui est de Dieu et nous le communiquera. Qu'est-ce qu'il y a dans Dieu? Dans Dieu, il y a sa nature. Dans Dieu, il y a son identité. Dans Dieu, il y a son autorité. Dans Dieu, il y a son caractère. Dans Dieu, il y a sa volonté. Alléluia! Quand le Saint-Esprit vient sur nous, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qui est de Dieu et il nous le communique. En d'autres termes, il prend la nature de Dieu et il la communique. En d'autres termes, il prend l'identité de Dieu et il nous la communique. Il prend le caractère de Dieu et il nous le communique. Il prend la volonté de Dieu et il la communique. Alléluia! C'est pourquoi il déclare que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passé et voici toutes choses deviennent nouvelles. Dieu change ta nature au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Il prend la nature de Dieu et il te la communique. Le Saint-Esprit prend la nature divine et il la met en toi. Tu n'es plus un simple homme, tu deviens un être tout à fait différent. Tu deviens une nouvelle créature. Dieu change sa nature. Autrefois, tu étais pécheur, tu deviens quelqu'un de sanctifié, de justifié. Tu n'es plus la même personne. Dieu change ta nature. Si dans ta nature, tu avais des habitudes, tu avais des vices, tu avais des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, Dieu enlève ces choses au travers de l'œuvre du Saint-Esprit et il te donne sa nature. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter « J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa nature, sa capacité, j'ai la vie de Dieu en moi. » Parce qu'il a dit « Celui qui vient en moi a la vie. » Alléluia. Donc Dieu nous donne sa vie. Le Saint-Esprit prend ce qui est en Dieu et nous le communique. Il prend la vie de Dieu et il communique cette vie à notre esprit qui était mort. Alléluia. Notre esprit qui était mort au travers du péché, à cause du péché, prend vie, reprend vie à cause de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit commence un travail de nous mettre en connexion, un travail de restaurer notre relation avec Dieu, la relation que nous avons perdue au travers du péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le Saint-Esprit restaure notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit restaure notre communion avec Dieu. Il la rétablit. Il nous donne sa nature. Normalement, aujourd'hui, quand on regarde un chrétien, on devait pouvoir voir au travers de sa vie l'image de la personne de Christ. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. C'est quoi les fils de Dieu? Les fils de Dieu, c'est pas Bernard, Nina, etc. Bernard, c'est le fils de l'homme. André, c'est le fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est le nom que ton père t'a donné. Tu es son fils. Il te reconnaît en tant que son fils au travers du nom qu'il t'a donné. André, c'est le fils de son père. Stéphane, c'est le fils de son père. Mais le fils de Dieu, c'est qui? Le fils de Dieu, c'est le Christ qui est en toi. C'est son esprit qu'il a mis en toi. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia! Donc, c'est ce Christ-là qui est en toi, qui est fils de Dieu. Et comme il y a un Christ dans André, il y a un Christ dans Destin, il y a un Christ dans Bernard, il y a un Christ dans mon frère Alabi, donc il y a un Christ dans mon frère Victor, donc tous ces Christ-là doivent se révéler à la face de la Sion, de la terre. Alléluia! Et le monde attend avec un amazir la révélation de ces fils de Dieu là, qui révèle au monde l'image de Christ, qui est Dieu, qui révèle au monde la nature de Christ, qui révèle au monde l'identité de Dieu, qui est Dieu. Quand le monde veut savoir qui est Dieu, il devait pouvoir se retourner vers les chrétiens pour savoir qui est Dieu. C'est en Antioche où pour la première fois, on a appelé les disciples de Christ chrétiens. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu comment ils menaient leur vie, ils ont vu qu'en fait ces personnes vivaient comme Jésus. Comme Christ, pas comme Jésus, mais comme Christ. Voilà pourquoi ils ont dit, ces personnes, c'est des petits Christ. Donc, c'est des chrétiens. Ça vient de Christ. Alléluia. Donc, on devait pouvoir, au travers de nos vies, voir qui est Christ. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il commence à faire ce travail. Il change notre nature. Il change aussi notre identité. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est ce qui fait ta personnalité. C'est que tu es. L'identité est reliée à ton arbre généalogique. Ton identité provient de tes pères, de tes ancêtres. C'est là où on trouve ton éducation. C'est là où on trouve ta culture. C'est là où on trouve en fait tes us et coutumes, tes mœurs. C'est là où on trouve en fait ta nationalité. C'est là ton identité, c'est que tu es en réalité. Et quand le Saint-Esprit vient, quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous nous convertissons, nous naissons de nouveau, la première chose que le Saint-Esprit fait pour rétablir notre communion avec Dieu, c'est qu'il vient aussi transformer notre identité. Alléluia! Donc, ce que tu trouvais bon au départ, le Saint-Esprit te montre que c'était mauvais. Ce que tes pères et tes ancêtres t'ont enseigné que c'était bon dans tes coutumes, dans tes traditions, l'Esprit de Dieu vient te montrer que c'est mauvais par rapport à la parole de Dieu. Alléluia! Et à partir de ce moment, tu commences à comprendre que tu étais sur le mauvais chemin. Parce que Christ est en train de changer ton identité. Et quand il transforme ton identité, il transforme aussi tes raisonnements. Parce que l'école t'a déformé ton esprit, t'a déformé ton âme. On t'a appris beaucoup de philosophie, beaucoup de sciences, beaucoup de cultures qui ne sont pas vraiment en rapport avec la parole de Dieu. Qui sont même contre la pensée de Christ. Alors, il attaque aussi ta pensée. Il attaque aussi tes conceptions. Et il détruit. Parce qu'il veut te donner une nouvelle identité. Alléluia! Il veut faire de toi une nouvelle personne. Ce que tu trouvais bon autrement, Dieu te montre que c'est mauvais. Ce n'est plus à toi de décider de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. C'est maintenant la parole de Dieu qui te montre que ce que tu fais est bon ou mauvais. Alléluia! Et le Saint-Esprit qui te connaît dans toute la vérité, qui te montre, qui te connaît toute la vérité, car il prendra ce qui est dans le Père pour te révéler. Il te montrera la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu est, ce que Dieu pense que c'est bon. Alléluia! Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Tout ça pourquoi? Pour nous permettre de rétablir notre communion avec le Seigneur. Et vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit faire ce travail en vous. Alléluia! Parfois, ça va être difficile que d'être ébranlé dans votre identité. Parce que le Saint-Esprit va ébranler votre identité. Le Saint-Esprit aussi prendra l'identité de Christ et la mettra en vous. Parce que vous n'aurez plus votre propre identité. Vous aurez maintenant l'identité de Christ. Alléluia! Vous aurez maintenant l'identité de Dieu. Il prendra aussi quoi? Il prendra aussi l'autorité de Christ. Et il vous la donnera. Si autrefois, vous étiez négligé, autrefois vous étiez foulé aux pieds par les hommes, autrefois vous étiez prisonnier, esclave du péché, esclave d'une malédiction, d'un esprit qui vous tourmentait jour et nuit, vous n'arrivez pas à dormir, etc. Une maladie qui vous tourmentait tous les jours. Vous êtes allé voir des charlatans, vous êtes allé voir des sorciers, vous avez parcouru le monde entier pour chercher une solution à votre problème. Parce que vous étiez esclave de votre péché, esclave de votre maladie, esclave de la malédiction, du mauvais sort qui était sur vous, esclave de ce qui a triomphé de vous. Alors le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'autorité de Christ qui est en Dieu et il vous la donne. Alléluia! À partir de ce moment, le Seigneur vous dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et plus rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Donc, Christ vous confère aussi son autorité. Le Saint-Esprit transfère l'autorité de Christ en vous. Alléluia! Et vous êtes revêtu en cet instant de l'autorité de Dieu. Vous pouvez marcher sur les esprits mauvais, vous pouvez marcher sur la maladie, vous pouvez marcher sur les circonstances négatives de la vie, vous pouvez triompher, vous pouvez marcher dans la victoire, vous pouvez marcher sur le péché, parce que maintenant, il vous revêt l'autorité de Christ. Alléluia! Il prend ce qui est en Dieu et il vous le communique. Alléluia! C'est pourquoi il déclare que quel Dieu est, tel nous sommes sur la terre. C'est comme ça. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, si nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, alléluia! Nous devons pouvoir manifester l'autorité de Christ. Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Mais le Saint-Esprit, toujours en prenant ce qu'est dans le Père, en nous le communiquant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend aussi le caractère de Dieu. Parce que, vous savez, chacun de nous a grandi avec un caractère. On n'a pas tous le même caractère. Donc, s'il faut qu'on se retrouve ici chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mardi, chacun avec son caractère, on ne pourra jamais s'entendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire que, mais attends, celle-là, elle, c'est pas pour qui? Je crois que c'est elle qui s'habille bien dans cet endroit-là. Hein. Au fait, tu as regardé comment il est maintenant là. Il paraît que... Mais est-ce que tu as fait attention? Et il y a des humeurs, il y a des états d'esprit, il y a des états d'âme, il y a des tensions. Si l'un vient, il dit bonjour, l'autre aussi, s'il ne dit pas bonjour, l'autre aussi ne dit pas bonjour. C'est... Chacun a son caractère. Vous savez, j'étais avec un frère, quand je faisais mes études de commerce, j'étais avec un frère, on partageait la chambre au campus. Et puis, lui, quand il se levait, c'était un frère, je ne le comprenais pas parfois. À l'église, oh, c'était un frère merveilleux. Il pouvait te donner des paroles d'encouragement, il pouvait te donner vraiment... C'était formidable, c'était un frère merveilleux. Quand il s'assied de louer le Seigneur, il chantait plus fort que tout le monde. Mais quand il se levait le matin, il se lève, moi je me lève, je lui dis bonjour. Si il veut dire oui, il dit oui. Sinon, il ne dit rien. Je dis, bah, attends, je ne comprends pas. Lui, il ne dit jamais bonjour quand il se lève le matin. Moi je me lève, je lui dis bonjour, à peine même s'il me répond. Et c'est là, dans le secret des quatre murs de ta chambre, que se révèle réellement ton véritable caractère. Si vous voulez vraiment savoir qui est l'homme, ce n'est pas ici à l'église. Il faut vivre avec lui à la maison. Ah, c'est là que vous allez tout voir. Que quelqu'un dise amen. Amen. Si c'est la vérité, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen. Oh, vous allez le voir à l'église, il est tout gentil, il est un merveilleux frère, une merveilleuse sœur. Alléluia, amen. Elle chante des cantiques. Mais dans le secret de sa chambre, de sa maison, allez-y voir comment la personne vit. Parfois c'est grave. Parfois c'est grave. On ne reconnaît plus la personne. C'est qu'il y a comme deux personnalités, deux natures qui se manifestent. Mais quand le Saint-Esprit arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il touche aussi notre caractère. Alléluia. Il le transforme et il prend le caractère de Dieu pour nous le donner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rétablir. Il veut nous rétablir. Il veut nous rétablir dans la communion avec le Père. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Il a dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a dit, nous devons créer l'homme avec notre nature, avec notre identité, avec notre caractère, avec notre personnalité. Ce que nous sommes, l'homme aussi doit l'être. Alléluia! Ça, c'est la volonté originelle de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Afin quoi? Qu'il domine.
domine. Vous ne pourrez jamais dominer sur le péché. Vous ne pourrez jamais dominer sur la maladie. Vous ne pourrez jamais dominer sur les esprits mauvais si vous n'êtes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que quelqu'un dise Amen.
Amen.
Vous ne pourrez jamais, parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin quoi qu'il domine. Donc si vous n'êtes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous ne pourrez jamais dominer. Mais c'est la nature qui dominera sur vous. Même une bête va dominer sur vous. Parce que quoi? Vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Or, Dieu en vous créant, il a dit que vous devez dominer sur les oiseaux, les bêtes, les champs, les arbres, la forêt et tout ce qu'il a créé. Voyez un peu les hommes aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans le monde, des grands intellectuels qui se disent grands intellectuels, instruits, hommes instruits, avec des grands diplômes et qui détiennent le plus haut pouvoir des nations. Voyez comment ils se comportent, ils vont jusqu'à tuer leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Et on voit dans les pays où il y a la guerre, des gens qui s'entretuent, des frères qui s'entretuent, des frères de même race, des pays qui s'élèvent contre une autre. Pourtant, à la tête de ces pays, il y a des gens qui sont instruits, qui ont une grande instruction. Comment réfléchir et admettre qu'ils puissent arriver à commettre de telles abominations? Des gens qui sont élevés intellectuellement. C'est tout simplement parce que leur esprit n'est pas en communion avec Dieu. Donc, ils sont tellement bas spirituellement qu'en fait, finalement, ils ressemblent à des bêtes. Et ils deviennent même plus que des bêtes. Parce qu'une bête, pour qu'elle tue, soit elle veut se défendre, soit elle a faim, elle veut manger. Alléluia! Mais ces personnes, elles tuent, même pas pour des raisons légitimes, même pas pour les mêmes raisons que les bêtes, mais elles tuent simplement pour satisfaire et assouvir leur désir, leur pouvoir. Créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Si l'homme était réellement à l'image de Dieu aujourd'hui, il dominerait sur la terre et il ne ressemblerait pas à une bête. Alléluia! Et quand le Saint-Esprit vient pour établir notre communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure cela. Il nous donne le caractère de Dieu. Il nous donne aussi sa volonté. Il nous donne sa nature, il nous donne son autorité. Il nous, en fait, en un mot, il nous réconfère l'image que nous avons perdue au travers du péché. Et quand nous retrouvons l'image de Dieu en nous, alors à ce moment-là, nous avons le pouvoir de dominer. Et nous marchons la victoire. Nous dominons sur le péché, nous dominons sur la maladie, nous dominons sur toutes les circonstances de la vie. Nous sommes vainqueurs. Alléluia! Parce que c'est cela qui nous a appelés. Dominer. Amen, amen. Dis à ton frère à côté, domine. Ah, je ne vous sens pas ce matin. Dis à ta soeur ce matin, domine. Alléluia. On ne peut être en communion avec Dieu que par le moyen du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit fait ce travail en nous, qu'est-ce qu'il fait? En d'autres termes, il ne fait rien d'autre que nous transformer. Et c'est ce que j'appellerai la première dimension de la communion avec le Seigneur. La première chose que Dieu fait dans notre vie au travers du Saint-Esprit, c'est de nous transformer. Il nous transforme. Donc c'est la dimension de la transformation. Alléluia! La deuxième dimension que je voudrais partager avec vous, nous allons la voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul écrit, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Dans toutes les épîtres de Paul, la plupart, il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Mais là, particulièrement dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, il dit que la communication, il ne dit plus que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, mais il dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque le Saint-Esprit nous a été transformé et qu'il nous a aidé à rétablir notre communion avec Dieu, la deuxième dimension qui va intervenir dans notre vie, c'est quoi? C'est la dimension de la communication avec Dieu. Alléluia! Le Saint-Esprit nous amène à communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que la faculté d'entendre la voix de Dieu que nous avons perdue dans le jardin d'Éden à cause du péché, nous la retrouvons au travers de l'action du Saint-Esprit dans notre vie et nous retrouvons la faculté d'entendre la voix de Dieu nous parler et la faculté de parler avec Dieu. Nous pouvons communiquer avec Dieu. Alléluia! Si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous pouvons communiquer avec Dieu. Combien de personnes viennent à l'église? Ils n'ont jamais entendu parler que le Saint-Esprit peut leur révéler des choses. Quand même ils ont entendu parler, ils n'ont jamais, ne fût-ce qu'une seule fois, expérimenté la voix du Saint-Esprit dans leur cœur. La voix, entendre la voix de l'Esprit, entendre Dieu nous parler. Et parfois ces personnes sont surprises. Oh, et elles regardent les pasteurs comme étant des extraterrestres. Parce que quand le pasteur s'élève et dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur m'a révélé, ma soeur tu as tel problème, mon frère tu as ceci, viens je prie pour toi. Et ça y est, vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Il est un homme de Dieu puissant. Mais non, ma soeur, mon frère, la même faculté qu'il a, Dieu te l'a donnée. Alléluia. Tu peux communiquer avec le Seigneur. Tu peux entendre le Seigneur te parler. Tu peux parler avec Dieu.
Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un. Je crois que c'était un de mes profs qui... Tout le monde en classe savait que, bon, voilà, je suis un chrétien. Et tout le monde m'appelait pasteur à cette époque. Quand j'étais encore à l'école, tout le monde m'appelait pasteur à l'école. Et puis un jour, il y avait un débat en classe. Et puis on me dit, est-ce que je crois que Dieu existe? Alors, à la grande surprise de tout le monde, j'ai dit non, je ne crois pas que Dieu existe. Tout le monde se retourne, c'est pas possible. Pasteur, j'ai dit non, je ne crois pas que Dieu existe. Je ne crois pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je ne crois pas que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Je ne crois même pas que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Je ne crois pas. Mais je sais.
Alléluia! Je sais que Dieu existe. Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Fils est venu du Père. Alléluia! Je sais que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui nous connaît toute la vérité. Je sais, je ne crois plus, je le sais. Alléluia! Parce que la parole déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire que celui qui entre en communion avec le Seigneur, ait dans son cœur la preuve évidente de son existence. Alléluia! Il faut qu'il sache. J'ai cru au départ. Je l'ai cru quand je ne savais pas encore, je ne connaissais pas qui était Dieu. On m'a parlé de lui, j'ai entendu parler de ce Dieu. J'ai cru. Et parce que j'ai cru à ce message, alors j'ai accepté Jésus. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie, j'ai demandé pardon, je me suis repenti. Je me suis converti, je suis né de nouveau, je me suis converti. J'ai appris à développer une relation avec le Seigneur. Cette relation m'a permis d'être en communion avec Dieu. Et tous les jours que je suis en communion avec le Seigneur, au fur et à mesure que je suis en communion avec lui, j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Le matin quand je me lève, je prie, je lis la parole de Dieu. Dieu me parle, j'entends Dieu me parler. J'entends sa voix, Dieu me révèle des choses dans sa parole. Je prie, Dieu m'exauce. Je suis malade, Dieu me guérit. Je prie pour les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Je vois la puissance de Dieu. Je vois la manifestation, la gloire, la présence de Dieu. À ce niveau de la relation avec le Seigneur, je ne crois plus. Je sais qu'il existe. Parce que j'ai les preuves. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Alléluia! J'ai des preuves de son existence. Je sais qu'il existe. Je ne crois plus, je sais qu'il est vrai. Alléluia! Parce que je peux le palper. Tous les jours, je peux le toucher. Il est vrai, il est réel. Est-ce que vous êtes arrivé à cette dimension, la communion avec le Seigneur? C'est la dimension de la communication. Où le cœur de Dieu, quand le cœur de Dieu bat, tu sens le cœur de Dieu battre. Quand le cœur de Dieu est attristé, tu sens le cœur de Dieu être attristé. Quand tu fais quelque chose, que tu dis une parole, que tu comportes d'une certaine manière, quand Dieu n'est pas d'accord, tu le sens. Alléluia! Tu le sais, alléluia. Parce que ton esprit est en communication avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que ton esprit est en communion avec cet esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et c'est cette dimension de communication avec le Saint-Esprit à laquelle l'apôtre Paul pouvait faire allusion quand il disait prier sans cesse. C'est-à-dire que ton cœur soit continuellement et en permanence en communion avec le Seigneur. Pour ressentir ce que Dieu ressent. Pour vivre ce qu'il vit. Et c'est grâce au moment là que tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Et que tu ne pourras plus accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Oh bien-aimé, quand tu es là dans la dimension de la communication avec le Seigneur, le Saint-Esprit, tout ce qui se passe dans le ciel, tu es au courant sur la terre. Il n'y a rien qui t'échappe. Parce que Dieu ne peut rien faire dans le ciel et sur la terre sans avoir averti à ses serviteurs sur la terre. Parce que toi tu es son serviteur et tu es en communication avec lui, tu seras au courant de ce qui se passera demain. Alléluia. Tu ne seras pas surpris. Et je vous dis, bien-aimés, par rapport au retour de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en communion avec le Seigneur ne seront jamais surpris de son retour. Parce qu'ils sauront quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia! Parce que Jésus a dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais le Saint-Esprit lui-même y connaît. Alléluia! Or, si nous en communication avec le Saint-Esprit qui connaît quand Jésus-Christ reviendra, qu'est-ce qu'il fait? Il le communique. Alléluia! Donc, ceux qui sont en communication avec le Saint-Esprit ne seront pas surpris du retour de Christ. Ils ne seront pas surpris du retour de Christ. Ils seront en alerte dans leur esprit. Parce que tout ce que Dieu va décider dans le ciel, ils seront au courant. C'est la dimension de la communication. Et tout enfant de Dieu a besoin de rentrer dans cette dimension avec le Seigneur. Tout serviteur de Dieu a besoin de cette dimension dans la communion avec le Seigneur. Parce qu'il n'est pas normal, en tant que serviteur de Dieu, de ne pas savoir ce que Dieu veut faire dans ton église, ce que Dieu veut faire dans ton ministère, ce que Dieu veut faire dans la vie de telle personne. Parce que normalement, si tu es en communion avec le Seigneur te le révèle. Alléluia! Amen. Voilà pourquoi on peut voir les pasteurs, vos pasteurs, donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des révélations, des prophéties, telle. C'est parce qu'ils sont en communication avec le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Dans leur communion avec le Seigneur. Et c'est à ce moment qu'intervient aussi la dimension prophétique.
la dimension de la révélation. Parce que vous êtes en communion avec le Père.
Oh bien-aimé.
Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je ne fais que ce que je vois mon Père faire dans le ciel. Il ne peut pas faire autre chose. Il était en communication avec le ciel. Et parce qu'il était en communication avec le ciel, tout ce qu'il faisait sur la terre n'était que la reproduction de ce qu'il voyait dans le ciel. Alléluia. Tout ce qu'il disait sur la terre n'était que la reproduction de ce qu'il entendait du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. C'est la dimension de la communication. Et chaque enfant de Dieu a besoin de cette dimension dans sa vie avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas venir à l'église simplement pour écouter quelqu'un dire des choses sur votre vie. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et ce n'est pas cela que Dieu vous a appelé. Sinon, vous allez commencer à vénérer cette personne. Vous allez commencer à regarder le pasteur comme étant un Dieu. Oh, quand le pasteur n'a pas parlé et n'a pas profité sur toi, tu retournes toute malheureuse, tu retournes toute triste. Tu as entendu une parole, oh Seigneur. J'ai vu des gens, quand les prophètes, un prophète arrive, quand le prophète n'a pas donné une prophétie, ça y est, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. J'ai vu des gens pleurer. Tu pleures pourquoi, ma soeur? Parce que le prophète n'a pas dit, n'a pas parlé, il m'a pas donné une parole. Je suis venu parce que je voulais avoir une parole. Mais tu peux l'avoir à parole depuis chez toi, ma soeur. Dans ton secret avec Dieu, dans ta communauté, Dieu peut te parler. Et comme ça, on s'accroche aux hommes de Dieu. On élève l'homme de Dieu à un stade où il n'est même pas. Il devient surhumain. Et le danger, c'est quoi? C'est que quand tu vas apprendre qu'il a chuté, oh, vous aussi vous chutez. Votre foi aussi chute. Pourquoi? Parce que votre foi était accrochée à la personne. Nous ne sommes que des hommes. Alléluia. Moi, je peux vous décevoir. Votre pasteur peut vous décevoir. Mais si vous êtes en communion avec le Seigneur, il ne vous décevra jamais. Alléluia. Et vous n'allez jamais rétrograder dans votre vie. C'est très important. C'est très important. La troisième dimension que je vais partager avec vous, c'est la dimension de la sainteté. On va prendre nos vies dans Jean chapitre 1, verset 6. La Bible déclare que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dans Isaïe chapitre 59, verset 1 à 3, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui vous cassent la face sans vous inquiéter, qui l'empêchent de vous écouter. Donc il y a une dimension de sainteté à développer avec le Père. Il y a une dimension de consécration à Dieu. Et si on n'a pas cette dimension-là, il est impossible d'être en communion avec lui. Parce qu'il est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Alléluia. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Le péché nous empêche d'être en communion avec le Seigneur. Donc, si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, nous ne pourrons jamais entendre Dieu nous parler. Nous ne pourrons jamais manifester la nature de Dieu sur la terre. Or, le chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Donc, qui manifeste la nature de Christ, qui révèle l'image de Christ sur la terre. Nous sommes des lettres écrites. Alléluia! Le monde doit pouvoir lire qui est Dieu au travers de nous. Alléluia! Et je m'adresse également aux futurs leaders. Nous avons une éthique à préserver. Nous avons un témoignage à préserver. Et si nous voulons réellement servir Dieu dans la dimension de la communion avec le Saint-Esprit, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons haïr le mal sous toutes ses formes. Et nous devons affectionner la sainteté, la pureté et la présence de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se lèvent. Ils travaillent pour le Seigneur. Ils travaillent pour le Seigneur. Ah, ils sont zélés. Ils font tout. Et beaucoup de bonnes œuvres. Mais malheureusement, ces personnes ne sont pas en communion avec le Seigneur. Ces personnes travaillent pour Dieu, mais Dieu ne travaille pas avec elles. Le but n'est pas de travailler pour le Seigneur. Le but, c'est de travailler avec le Seigneur. Alléluia. Et ceux qui sont en communion avec le Seigneur ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent avec Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont en communion avec le Seigneur, ils sont en communication avec le Seigneur. Donc ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils prient les prières que Dieu veut qu'ils prient. Ils chantent les cantiques que Dieu veut qu'ils chantent. Ils adorent l'adoration que Dieu veut qu'ils adorent. Ils prêchent le message que Dieu veut qu'ils prêchent. Ils font les miracles que Dieu veut qu'ils puissent faire. Alléluia. Parce qu'il y a des miracles que les hommes font que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Dieu accomplit quand même le miracle parce qu'en fait, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'accomplit. Voilà pourquoi à la fin, il y en a à qui Dieu dira, retirez-vous de moi, je vous ai même connu. Et ils diront, mais on a fait des miracles en ton nom. Pourquoi? Parce que les miracles qu'ils ont fait là, ce n'est pas Dieu qui leur a demandé de le faire. Ils ont prié au nom de Jésus. La personne a été guérie à cause du nom de Jésus. À cause de la parole de Dieu qui ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son effet. Mais ce n'était pas
la volonté parfaite de Dieu. Ils ne l'ont pas reçu de Dieu. Parce que même quand Jésus dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même pour faire le miracle sur la terre, il a fallu que Jésus-Christ ait l'accord, l'aval du ciel. Alléluia! Et beaucoup de personnes aujourd'hui font des miracles pour montrer qu'ils sont des serviteurs de Dieu puissants. Et beaucoup de gens les suivent. Et ils entretiennent cet état d'esprit. Les gens dépendent d'eux. Rien ne peut se passer sans eux. Les gens sont connectés à eux. Nous ne sommes pas de ce genre de pasteurs. Alléluia! Nous vous prêchons la parole qui déclare que même pour faire un miracle, il faut que Dieu nous le dise. Amen. Si Dieu ne le dit pas, on ne peut rien. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu veut faire dans votre vie. Peut-être que Dieu est en train de vous faire passer par une épreuve pour vous permettre de le connaître mieux. Et si vous ne passez pas par cette épreuve, vous n'allez jamais arriver, parvenir à ce que Dieu veut faire de vous. Mais là, sinon, on vient court-circuiter le travail de Dieu. Nous sommes en désaccord avec Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Vous aurez votre miracle, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas demeurer dans la foi. Vous allez retourner. Moi, je vous parlais de quelqu'un, par exemple, qui a été guéri, un infirme, un paralytique. Il ne marchait plus, il venait en fauteuil roulant lors d'une grande campagne d'évangélisation. Un grand serviteur de Dieu connu dans le monde, je tiens son nom par discrétion. Et il a reçu l'onction sur lui qui est venue sur lui. Et vraiment là où il était sur son fauteuil roulant, la présence de Dieu a fondu sur sa vie. Gloire à Dieu. Parce que l'homme de Dieu a dit, sois guéri. L'onction est venue. Dieu honore la parole de ses serviteurs. Il honore. Et qu'est-ce qui se passe? Le paralytique s'est levé. Il a marché. Alléluia. On a glorifié le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Au sortir même de la campagne d'évangélisation, il était tellement content qu'il est rentré dans un bistrot. Il a rencontré ses amis. Il a dit, venez par tout le monde, venez. Je suis guéri. Il a acheté les casiers de bière, le vin. Ils ont fait la fête. Ils ont bu. Je suis guéri, je suis content. Mais quand il sort de là, il ne pouvait plus traverser le seuil de la porte. Il est redevenu paralytique. Alléluia. Pourquoi? Parce que il a eu un miracle, mais il n'a pas connu Dieu. Et pour éviter ça, il est important que les hommes de Dieu puissent avoir discerné ce qui est bon, agréable et parfait en toutes choses, même dans les miracles. À l'église, on ne vient pas seul. Voilà pourquoi, vous savez, maintenant, Dieu nous a donné une direction ces derniers temps dans l'église. C'est que on ne va plus faire les appels tout le temps comme ça dimanche, prier pour les gens. Non, c'est bon. On se laissera conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important que quelqu'un donne gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce que Jésus a dit, tu ne fais que ce que je vois mon Père faire. Alléluia. C'est très important. Quatrième dimension. La méditation de la parole de Dieu nous met en communion avec Dieu. Nous allons ensemble lire le psaume chapitre 1. Ensemble. Parce que c'est très important. La Bible déclare que heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voix des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. On va reprendre ce passage ensemble. C'est un psaume merveilleux. On va le lire ensemble, en cœur. Alléluia. Ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne se pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voix des pécheurs mène à la ruine. Alléluia! Alléluia! C'est la dimension de la connaissance de la parole. Parce que la méditation de la parole de Dieu nous met en communion avec le Seigneur. C'est la dimension de la connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La parole de Dieu nous révèle qui est Dieu. La parole de Dieu nous révèle qui est la personne, même la nature, l'identité de Dieu. La parole de Dieu nous révèle le caractère de Dieu. La parole de Dieu nous révèle sa nature, son caractère, son identité, sa personnalité. C'est que Dieu est. Alléluia. Donc quand nous connaissons la parole de Dieu, quand nous la méditons jour et nuit, nous accédons à la dimension de la connaissance de Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans l'échec, ne connaissent pas la victoire dans leur vie, ont des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous voyez des chrétiens qui arrivent à l'église, dans leur prière même, ils ont déjà plusieurs années dans le Seigneur, dans leur prière même, on ne comprend même pas ce qu'ils veulent dire dans leur prière. Même pas un verset biblique. Tu entends, je vais vous raconter une histoire qui vous fait rire, c'est incroyable. Il y avait quelqu'un dans la cellule de prière, un frère, qui le surprenait bizarrement. Des fois dans la prière, tu entends, il dit, « Oh Seigneur, nous te disons merci ce matin, parce que comme tu m'as dit ce matin dans le Coran. » Donc, il lit même encore le Coran en fait. Donc, et quand il prie, il dit, « Comme tu as dit ce matin, Seigneur, dans le Coran, il n'y a qu'un seul Dieu. » Il ne connaît pas la parole. Et comme le racontait un pasteur, vous entendez les gens qui prient. Là, c'est au Gabon, mon pays. Et dans la prière, il dit, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, que l'union fait la force. L'union fait la force. Où est-ce que c'est qu'est la parole de Dieu? Non, ça c'est une citation communiste, ça. Ou encore, il dit, tu as dit ta parole. Travail, justice et paix. Dialogue, tolérance et paix. Non, c'est la devise du Parti démocratique gabonais. C'est pas la parole de Dieu. Et vous allez voir des gens comme ça. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ils prient comme ça, ou ils vivent leur chrétien comme ça. Elle est fondée sur quoi, ta vie chrétienne? Ce que tu fais, tes actions, tes comportements, tes paroles, tes agissements, c'est fondé sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? La dimension de la connaissance, la parole de Dieu, elle est très importante. Vous discuterez avec des gens, par exemple, des autres églises, des régions comme les régions catholiques. Vous leur poserez la question, pourquoi vous priez Marie? Ils vont dire, mais parce que c'est la mère de Dieu. C'est la mère de Dieu. C'est écrit où que c'est la mère de Dieu? Jésus a dit, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon père. Alléluia! Nulle part dans la Bible, il ne dit qu'on doit prier Marie. Nulle part. Elle a simplement obtenu grâce aux yeux de l'Éternel pour donner le Fils unique du Père. Parce que selon la promesse que Dieu a faite à Adam et Ève, il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc il a fallu que quelqu'un naisse d'une femme pour écraser la tête du serpent. Et c'est Jésus qui est venu. Alléluia! La postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. C'est l'accomplissement de la parole. Et Jésus a dit, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle part dans la Bible, il dit qu'il faut baptiser les bébés. La Bible déclare que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais vous trouverez quand même des gens qui vous disent, il faut que je baptise mon enfant. Mais sur quoi tu t'appuies dans la parole de Dieu pour dire que tu vas baptiser ton enfant? Est-ce qu'il a une bonne conscience pour s'engager envers Dieu? Si vous êtes père dans cette église, vous êtes le chef de la famille, et j'ai dit ceci à votre endroit, n'acceptez jamais, si vous avez une femme qui n'est pas chrétienne, qui veut amener les enfants pour leur faire un baptême ou quoi que ce soit, ou des pratiques qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu à laquelle vous croyez, en tant qu'autorité spirituelle dans votre famille, dites non. Dites non. Alléluia. Parce que Dieu, c'est à vous qui demandera des comptes pour vos enfants et pour la destinée de votre famille, pour la destinée de votre maison. C'est vous qui êtes l'autorité dans votre maison et vous devez apporter le règne de Christ dans votre maison. Et vous devez élever vos enfants sous l'influence des valeurs de la parole de Dieu. Il est très important. Ne permettez pas que vos enfants à la maison fassent n'importe quoi. Tant que vous êtes le chef de la maison, le chef de famille, c'est vous qui donnez la ligne de conduite. Et vous devez guider vos enfants sur la base de la parole de Dieu. Vous ne devez pas laisser une liberté à vos enfants de faire n'importe quoi. Vous devez les redresser avec la parole de Dieu. C'est très important. Parce qu'il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas que votre maison soit un repère de tout oiseau ou Dieu, de toute abomination, ou des pratiques bizarres, ou des comportements bizarres. Votre maison doit être Bethel, la demeure de l'Éternel. Alléluia. Une habitation de Dieu en esprit. Il faut que Dieu soit présent dans votre maison. Alléluia. C'est très important. Il faut que dans votre maison, ce soit un point de contact entre le ciel et la terre. Que comme avec Jacob, les anges de Dieu montent et descendent en permanence pour établir l'onction et la présence de Dieu dans votre maison. Faites respecter l'autorité de Christ dans votre maison. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ramenez l'autorité de la parole de Dieu dans votre maison. C'est très important.
à l'école de leader, j'ai parlé de l'église et j'ai défini l'église dans plusieurs dimensions. Et j'ai dit que la maison même, votre foyer même, elle-même est une église. Votre famille est une église. Faites des réunions à la maison. Priez avec vos enfants. Priez avec votre femme. Faites respecter la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, les enfants grandissent comme ça à l'école, ils apprennent beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Parce que du lundi au vendredi, ils sont en contact avec d'autres personnes. Nous, on les voit très peu. Il y a beaucoup d'influences, beaucoup de mauvaises valeurs qui leur sont inculquées, qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais il est important que nous puissions redresser ces choses et ramener toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Détruire par la parole de Dieu tout raisonnement hautain et tout auto qui se dresse contre la connaissance de Christ dans nos vies, dans la vie de nos enfants, afin que leur esprit soit influencé par la parole de Christ dès leur jeune âge. Alléluia. Parce que nous voulons faire lever une nouvelle génération qui va influencer ce monde. Et nos enfants doivent relever des défis que nous-mêmes, on n'a pas pu relever. Alléluia. C'est très important, la dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Je vais bientôt finir rapidement. La cinquième dimension, c'est la dimension de l'amour. On ne peut pas être en communion avec Dieu si on n'est pas en communion avec nos frères, avec le corps. Quand nous prenons le pain, il est dit que ce pain symbolise la communion au corps de Christ. La communion au corps de Christ, comme on l'appelle la Sainte-Seine ce matin. Le sang qui est la nouvelle, le sang de la nouvelle alliance. Il est écrit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous savez, la vie chrétienne des paroles, des mots là, Dieu en a suffisamment entendu. Et le monde aussi en a suffisamment entendu. La Bible déclare que c'est en vous aimant les uns les autres que les gens du monde verront que vous êtes réellement mes disciples. Alléluia! L'amour, ce n'est pas seulement les paroles. L'amour, c'est aussi les actes. J'ai repris un frère ici parce qu'il dit « Ouais, il faut prêcher l'amour. Il faut prêcher l'amour à l'église. Il faut prêcher l'amour. » J'ai dit « Ah bon, tu prends l'amour. Est-ce que tu peux me dire combien de personnes tu connais à l'église? Est-ce que tu peux me citer ne fût-ce que 5 noms? Est-ce que tu peux nous citer ne fût-ce que 5 noms que tu connais? » Rien du tout. Pourtant, c'était un grand spirituel, chantant langue. Mais il ne connaît même pas. Je ne parle pas des anciennes personnes, mais les nouvelles personnes. Il ne connaît pas. J'ai dit bon. Deuxième question. Le pasteur avait annoncé un jour comme ça que nous allons faire une banque alimentaire à l'église. Et comme nous n'allons pas aller demander la nourriture au monde, parce que Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger, nous-mêmes on va commencer à collecter des vivres, des provisions pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Il a même fait venir un congélateur au frigidaire dans la salle du fond pour que les gens en semaine viennent déposer leurs dents. Toi, mon frère, tu travailles, ta femme travaille. Vous avez des salaires. Combien de fois tu es venu ne poser ne fût-ce qu'un colis dans cette banque alimentaire pour aider quelqu'un qui est dans le besoin en discutant à l'église? Et tu me parles d'amour. Quand on fait les offrandes, vous savez, moi je ne regarde pas quand j'en donne. Hein, mais il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, il y a des gens dans la maison du Seigneur, franchement. Il me dit, est-ce que tu as remarqué que tel frère, quand il donne seulement des pièces? Je dis, bon, arrête, c'est pas possible. Et toi, tu viens ici pour regarder comment les gens donnent. Mais comme par hasard, un jour, je me lève, je passe pendant les offrandes, j'allais au fond de la salle. Le frère comptait ses pièces. C'était des pièces, pas des pièces jaunes, hein, mais des pièces rouges. Vous comprenez ce qu'il avait dit? C'est-à-dire que c'est même pas un 10 centimes, moins 20 centimes, moins 50. Mais c'est les 1 centime, les 2, jusqu'à 5 centimes, là, tu vois? Ça s'arrête à 5 centimes. Et c'est ça que tu veux mettre dans la maison. Et tu veux parler d'amour. Tu n'es même pas capable. Vous savez, moi, je ne prêche pas la loi. Je prêche l'amour. Alléluia. Vous me verrez, et d'ailleurs le pasteur André c'est pareil, vous nous verrez rarement parler des dîmes et des offrandes, des lois, etc. Pas parce qu'on ne croit pas, on croit que ça existe. Et il est important que le peuple de Dieu donne sa dîme et son offrande à Dieu. C'est très important. Mais nous croyons aussi que pour que le peuple de Dieu parvienne à donner ses dîmes et ses offrandes, il faut qu'il parvienne d'abord à une dimension de communion où eux-mêmes ils aiment Dieu. Parce que ça ne sert à rien de donner par contrainte, ou de donner par formalisme, ou de donner parce que en fait vous obéissez à une loi. Vous devez donner parce que vous aimez Dieu. Il est écrit que chacun de nous donne selon ce qu'il a résolu en son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun nous donne selon l'amour qu'il a pour Dieu dans son cœur. Proportionnellement au degré d'amour que tu as pour Dieu dans ton cœur. Alléluia! Donc si tu n'as pas d'amour pour Dieu, tu ne pourras pas donner. Et si tu donnes, ce ne sera pas contrainte. Tu ne seras pas béni. Mais plus tu aimes Dieu, plus tu vas donner. Si tu aimes Dieu à 10%, tu donneras 10%, comme c'est demandé. Mais si tu aimes Dieu à plus de 10%, tu donneras plus. Regardez Ananias et Saphira. Regardez l'église primitive. Ils étaient une dimension de communion avec le Seigneur où ils avaient tout en commun.
et ils donnaient les 100%.
Au point quand Ananias et Saphira sont venus, ils ont donné les 50%. Dieu leur a frappé de mort. Pourquoi Dieu a frappé de mort? Ils n'ont pas été frappés de mort à cause de la loi. Non. Ils ont été frappés de mort parce qu'ils savaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent et ils ne l'ont pas fait. Donc la dimension de l'amour de Dieu dans leur communion avec le Seigneur les exigeait à donner plus de 50%, les 100%. Ils n'ont pas donné, alors ils ont été frappés. C'est là que la Bible déclare que si tu sais faire ce qui est bien, que tu ne fais pas, tu commets un péché. Pourquoi? Parce que dans ta communion avec le Seigneur, si tu as une dimension d'amour avec le Seigneur, Dieu va t'amener à aimer comme lui il aime. Alléluia! Et tu feras les choses de Dieu, non parce qu'on te demande de le faire, mais parce que tu seras guidé par l'amour de Dieu dans ta vie. Et tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu si tu n'es pas en communion avec le corps de Christ. Tu ne peux pas le dire. Il faut aimer tes frères, aimer tes sœurs. L'église primitive croissait par l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. La communion fraternelle est très importante. Vous devez vous visiter, frères et sœurs. Vous devez, au moins dans l'église, connaître ne fût-ce qu'un échantillon de noms de personnes à qui vous pouvez visiter, à qui vous pouvez rendre service peut-être un jour sur la maison, pour qui vous pouvez prier tous les jours. C'est très important. Vous devez veiller les uns sur les autres. Que les plus forts fortifient les plus faibles. Vous devez au moins avoir derrière vous un certain nombre de personnes que vous voulez aider à arriver à votre dimension de foi. Et ceux qui sont devant vous, vous aideront vous aussi à arriver à nos dimensions. Et c'est comme ça le corps de Christ. Comment le corps de Christ s'édifie. Mais si je viens à l'église le dimanche, simplement parce que je viens pour moi-même, pour mon Dieu, quand le culte est terminé, déjà même je regarde la montre, il faut que ça finisse vite là, parce que franchement là, et puis après, tranquille, le culte est terminé, je m'en vais, je connais personne, je prie pour personne, je n'aide personne, je viens à l'heure, je repars à l'heure, je connais personne. Fréquentez-vous. Les couples, l'église, fréquentez-vous. Partagez-vous des expériences. Organisez des rencontres ensemble. Le couple, par exemple, Hilario peut dire, bon, ce samedi, ce vendredi ou ce samedi, comme demain on ne travaille pas, on va aller manger avec le couple Boundou, par exemple. Ou le couple Séné peut dire, on va aller chez le couple Hilario. Ou le couple Alabi. Partagez-vous des expériences. Édifiez-vous. Parce que le dimanche, ça ne suffit pas. Le mardi, ça ne suffit pas. Le vendredi, ça ne suffit pas. Nous devons vivre la dimension de la communion, l'amour. Alléluia! C'est très important. La dimension de l'amour. L'avant-dernier point que je vais partager avec vous, c'est la dimension du jeûne et de la prière. Prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible déclare que prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit doit être dans un état permanent, dans un état de permanente communion avec le Père. Notre esprit doit être dans un état de permanente communion avec le Père. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez, dans ces deux passages, il y a une notion de permanence, de perpétuité, de constance. Nous devons être en permanence en prière. Notre esprit doit être en permanence dans la présence de Dieu. Nous devons développer une dimension de prière. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas avoir une communion forte avec le Seigneur. Et il est important que vous puissiez vous-même à la maison apprendre à développer une vie de prière. Ne pas seulement venir prier à l'église le dimanche ou vendredi, encore que vendredi à la réunion de prière, on peut compter le nombre de personnes qui viennent. Le peuple de Dieu n'aime pas la prière. Alors que vous ne pouvez pas être en communion avec le Seigneur si vous n'apprenez pas à développer la dimension de la prière. Parce que la prière nous conduit dans la source de la vie abondante. Elle déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Ton cœur doit être connecté à la source de la vie abondante. Et là, quand tu arrives le dimanche à l'église, parce que tu vis une vie de prière toute la semaine, quand on dit, levons-nous voir, prions, oh bien-aimé, le feu qui sort de ta bouche là, non, même un esprit ne peut pas résister. C'est le feu, alléluia! On sent, on peut sentir les hommes et les femmes de prière quand on prie ensemble à l'église. On peut sentir, on peut savoir que tel n'a pas l'habitude de prier. Tel n'a pas l'habitude de prier. Parce que quand vous êtes ensemble, c'est dur. Dites c'est dur. C'est compliqué. Frère, élève ta voix. C'est dur. Quand le pasteur dit, élevons tous nos voix. Élevons les voix. C'est dur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vie de prière à la maison. Priez sans cesse. Priez. Moi, je prie tout le temps. Même quand je travaille, quand j'ai un petit temps comme ça, quand je vois que le diable commence à vouloir faire divaguer mes pensées comme ça, oh yes. Priez. Ce qui prie en langue, priez en langue. Alléluia. Ce qui prie en français, priez en français. N'attendez pas un moment particulier pour prier. quand vous avez envie de prier, n'importe quel moment, même dans un, quand vous allez au travail, vous sentez le besoin de prier. Vous marquez une pause, allez au vestiaire, retirez-vous, Seigneur. Même devant votre ordinateur, on n'a pas besoin de vous retirer. Même devant votre ordinateur, vous pouvez prier. Dieu peut vous amener en communion avec le Seigneur. Dieu peut vous dire, en ce moment, arrête tout. Pense à la sœur Christine. Pense à la sœur Christine. Et parfois, tu dis, mais je ne sais pas pourquoi je pense à cette sœur. Oh Seigneur, je te la recommande. Je prie pour la sœur Christine. Tu la bénis, Seigneur. Tu la fortifies, Seigneur. Si elle a une difficulté, Seigneur, tu viens ébranler toute difficulté devant elle. Au nom de Jésus. Sans le savoir, tu viens de la délivrer d'une situation qu'elle traversait. Tu viens de sauver la sœur. C'est pour que vos prières agissent dans la vie de vos frères et sœurs. Alléluia.
Amen, amen.
Alléluia. Mais c'est pour faire comprendre que tous les jours, nous vivons dans un monde à haut risque. Et si nous ne développons pas la dimension de la prière, nous sommes exposés. Je vais terminer avec ce point en prenant le témoignage d'un frère qui un jour, à 3h, 4h du matin, il se réveille, il n'a plus envie de dormir. Il a l'insomnie tout d'un coup. Et puis il se met à prier, il ne sait pas pourquoi il prie. Et comme il ne sait pas pourquoi il prie, il y a des cas que l'esprit nous aide dans nos faiblesses quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Et donc il n'intercède pas de ce prier inexprimable. Et le frère se met à prier en langue. Il prie en langue, il prie en langue, il prie en langue, il prie en langue. Et puis après la paix vient dans son cœur, il se rendort. En ce moment bien précis, il y avait un frère qui avait été arrêté, qui était en prison pour la cause du Seigneur. Et à cette heure bien précise, le Seigneur a fait un miracle. Le lendemain, le matin, les autorités de la prison sont venues pour lui dire, tu es libéré. Sors de ta prison. Et ça m'a fait penser à Pierre et Jean, qui, lorsqu'ils étaient en prison, se sont mis à prier. Alléluia. Et parce qu'ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les chaînes, la Bible déclare que les chaînes qui les liaient dans la prison se sont rompues. Et j'ai compris la dimension de la prière, l'impact de la prière, parce que la dimension de la prière libère. Alléluia. La prière nous libère des chaînes. La prière vient briser les chaînes de l'esclavage. Pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Dimension de la prière, c'est très important. Priez à la maison, ayez un temps de prière, c'est très important. Je vais terminer avec le dernier point, le septième point. La dimension de la louange, de l'adoration, de l'action de grâce. Combien de personnes Dieu a béni dans cette assemblée? Combien? Levez la main. Est-ce que vous avez eu des problèmes par exemple, ou bien des situations où vous avez besoin de voir Dieu vous aider? On a prié pour vous, vous avez prié que Dieu vous a aidé. Levez la main. Que ce soit une guérison, un emploi, une circonstance, une restauration, une bénédiction quelconque. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Dieu fait des choses merveilleuses au milieu de son peuple. Mais pourquoi quand nous venons à la maison du Seigneur, nous ne rendons pas grâce à Dieu? J'ai aimé la sœur là, la sœur Liliane. C'est merveilleux. Les mots lui manquaient. Mais là, elle a écrit, elle a dit, Seigneur, vraiment, il faut que je te rende grâce. Parce que le psalmiste a dit, il dit, j'entrerai dans tes portes avec des actions de grâce. Dans tes parvis avec des louanges. Alléluia. Je célébrerai, je chanterai ton nom. Alléluia. Parce qu'il a dit, quiconque offre des actions de grâce à Dieu, le glorifie. Nous devons louer, adorer le Seigneur. Dieu cherche un peuple qui l'adore en esprit, en vérité. Dieu nous a créés pour servir à la louange de sa gloire. Et la louange, l'adoration, les actions de grâce entretiennent notre communion avec le Seigneur. Car il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc les cantiques, les psaumes et tout le reste, tout ce que nous faisons, font quoi? Nous entretiennent. Entretiennent notre communion. Il dit entretenez-vous, entretenez-vous. Hein, vous avez des véhicules, non? Vous les entretenez. Alléluia. Faire la vidange, mettre un peu l'huile. Hein, entretenez. Et c'est pareil avec nos vies. Chaque matin, chaque jour, on doit entretenir. Tout comme tu prends ta douche, comme tu fais ta toilette. Tu dois faire ta toilette spirituelle. Alléluia. Quand tu lèves le matin, tu dois t'embellir pour le Seigneur. Alléluia. Tu dois nettoyer ton cœur, tu dois nettoyer ton âme, ton esprit. Lire la parole de Dieu, adorer le Seigneur, prier. Quand tu sors de là, tu es propre. Alléluia. Et tu revais ton meilleur vêtement, ton costume, ta meilleure robe, un vêtement de louange. Alléluia. Et quand tu sors de là-haut, tu es belle, ma soeur. Alléluia. Tu es beau, mon frère. Alléluia. Et quand les gens te regardent, oh frère, tu es beau. Tu es beau. Tu es transformé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Entretenez-vous. Par des psaumes, par des hymnes, par des prières, des cantiques spirituels, la méditation, la parole de Dieu. Entretenez-vous. Entretenez votre esprit. Nettoyez-le. Soyez propre. Alléluia. Il y a un frère qui vient de donner sa vie à Jésus dans cette église. Quand je l'ai vu hier,
incroyable de voir ce que Dieu peut faire dans une vie. Comment Dieu peut rendre propre quelqu'un. Physiquement, je dis, hein, physiquement. Je le regarde comme ça, mais ce n'est pas possible. Il avait un visage de bébé. Un visage de bébé. Et c'est comme s'il sortait fraîchement de la douche. Vous voyez, comme quelqu'un, par exemple, qui s'est reposé, il était fatigué, il avait besoin de repos, il a dormi. Hein, vous voyez, non? Il a dormi longtemps, il s'est bien reposé. Et puis après, il sort de là, il prend une bonne douche. Alléluia. Il est tout frais. Je l'ai vu hier. Il était 6h du soir. Il était tout frais. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as? Il était tout beau. C'est comment? Il dit, il a arrêté de boire. C'est formidable. Alléluia. Il a arrêté de boire. Vous voyez comment Dieu peut transformer une vie? Quand la présence de Dieu vient dans un cœur, comment Dieu peut transformer une vie? Alléluia. Tu deviens beau. Le péché rend vilain. Je vous dis, le péché rend vilain. Mais la sainteté, la présence de Dieu rend propre. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin esthétique ou quoi, lifting. Mais quand tu adores le Seigneur, lifting spirituel. Alléluia. Alléluia. Dieu te fait la beauté lui-même. Il trace. Alléluia. Quand un frère te regarde, oh, les soeurs qui cherchent le frère là, qui ne sont pas encore mariés là, entretenez votre vie spirituelle. Les frères qui ne sont pas encore mariés, entretenez votre vie spirituelle. Alléluia. Parce que je vous dis, si vous ne vivez pas une vie de communion avec le Seigneur, je vous dis, même si vous êtes beau, hein, physiquement, naturellement, quand la soeur te regarde comme ça, parce que si tu es un frère, que tu veux une soeur sérieuse, hein, les sœurs sérieuses, hein, ce sont les sœurs qui s'entretiennent, qui sont dans la présence de Dieu. Donc, si toi tu veux une sœur sérieuse, il faut que toi aussi tu ailles là-bas. Mais si tu es dehors et qu'elle est dedans, même que tu es beau, hein, elle te voit que tu es vilain. Pareil pour les frères. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Si vous voulez que vous voulez être marié à quelqu'un de sérieux, vous-même soyez sérieux. Alléluia. Parce que Dieu ne révèle ces belles choses qu'à ceux qui sont dans sa présence. Hein? Alléluia. Dieu révèle et garde ses perles à ceux qui sont dans sa présence. Il y a des bénédictions qui sont communes. Il y a des grâces qui sont communes. Mais tout don parfait, toute grâce excellente, nous viennent d'en haut. Nous viennent de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quand vous voyez le couple qui s'assemble, se ressemble. Et qui se ressemble, s'assemble. Alléluia. C'est très important. Parce que si tu es un frère, tu es hors de la présence de Dieu et que tu veux une soeur qui est dans la présence de Dieu, ça ne va pas marcher dans la maison. Parce que elle, quand elle a envie de prier, toi tu as envie de regarder ton match, tu zappes, tu es là, tu zappes. Elle a envie d'écouter la louange. Toi tu as envie un peu encore d'écouter un peu, tu vois, le dernier tube de Kofi là. Ça ne marche pas. Il y a incompatibilité. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne rassemble que des êtres d'une même espèce, d'une même nature. Et les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Alléluia! Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques. Et c'est là le secret de la vie chrétienne. Quand vous êtes propre, Dieu voit propre, Dieu est content de vous. Voilà pourquoi il dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen, amen! Parce que David, c'est quelqu'un qui s'entretenait tous les jours par des psaumes, par des hymnes. Il aimait le Seigneur. Il aimait sa présence et il dit, mon désir ardent et mon vœu suprême, Seigneur, c'est d'être dans ta présence chaque jour. Et la présence de Dieu est source de bénédiction. Amen. Dieu vous donnera des bénédictions qu'il ne peut pas donner à d'autres personnes. Parce que vous aimez sa présence. Dis à ton voisin, sois un chrétien propre. Alléluia. Sois sapé en Christ. Sois sapé en Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Levez maintenant. Alléluia. Tenons-nous debout un instant. Nous allons terminer par la prière. Rendons grâce à Dieu pour ce message. Alléluia. Élevons tous nos voix. J'ai dit, élevons tous nos voix. Alléluia. Élevons tous nos voix et prions. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, tu nous as nourris, tu nous as édifiés, tu nous as fait du bien. En écoutant ta parole ce matin, Seigneur, nos cœurs sont réjouis. Tu nous as appris les 7 dimensions de la communion avec Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous as enrichis ce matin par ta parole. Maintenant Seigneur, oh Dieu, je veux avoir une vie de pleine communion avec toi. Je vais avoir une vie de pleine communion avec le Saint-Esprit. Je vais avoir une vie de pleine communication avec toi, Seigneur. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Restaure mon esprit.
Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Transforme ma vie. Je veux te ressembler. Je veux te plaire. Je veux être agréable. Renouvelle mon être intérieur. Façonne-moi ton image. Je veux être en communion avec toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vais, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, aide, Seigneur, oh Dieu. Dans ta présence. Oh Seigneur, parce que ceux qui sont en communion avec toi portent du fruit. Car tu as dit, celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent porte du fruit, Seigneur. Oh Dieu, la communion avec toi, Seigneur, nous propulse à une dimension de fertilité, de fécondité, qui nous amène à porter du fruit. Alléluia, alléluia. Je veux porter du fruit, je veux porter du fruit. Alléluia. Aide-moi à être en communion avec toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ton peuple ce matin. Je prie que, Seigneur, tu introduises ton peuple, que tu le propulses dans les sept dimensions de la communion avec toi ce matin. Je viens briser tout obstacle à la communion dans leur vie. Au nom de Jésus. Je viens détruire toutes les barrières qui les empêchent de développer une vie de pleine communion avec toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu crées la soif de ta parole dans leur cœur. La soif de ta présence. La soif de la prière. Et qu'ils soient en communion permanente avec toi. Tu mets la crainte de Dieu dans leur cœur, Seigneur. Afin que, Seigneur, ils marchent dans la sainteté. La dimension de la sainteté, Seigneur. Tu les fais accéder à la connaissance de ta parole, afin qu'ils te connaissent mieux, qu'ils connaissent, Seigneur, qui tu es, ta nature, ton caractère, ton identité, ta personne, afin qu'ils soient transformés à ton image, qu'ils te ressemblent. Transforme ton peuple et amène-nous dans les dimensions de la communion les plus profondes avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.